Dans cette série Géopodcast, la classe de terminale, suivant la spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques du lycée des Horizons de Chazelles-sur-Lyon, va décrypter pour vous une série de conflits généralement peu évoqués dans les médias.
Le podcast du jour traitera du conflit d'Haïti, une guerre qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, Haïti fait parler d'elle car la République dominicaine construit un mur sur leurs frontières. Mais alors pourquoi ? Cette petite île des Caraïbes subit une guerre civile depuis l'assassinat du président Moïse en 2021. Concrètement, cet état n'a jamais été stable. Colonie française puis états-unienne, elle connaît la dictature de Papa Doc et de son fils jusqu'à la fin des années 1980. Comprenez bien qu'Haïti n'a pas le contrôle de son territoire. C'est l'un des pays les plus pauvres de la planète et son régime est instable. En géopolitique, on appelle cela un état failli. Un état failli, qu'est-ce que c'est ? En quelques mots, c'est un état dans lequel rien ne fonctionne, qui ne parvient pas à assurer ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire protéger sa population, maintenir l'ordre et appliquer la justice. Par exemple, de janvier à août 2021, on dénombre pas moins de 944 homicides intentionnels et 159 meurtres organisés par les gangs, dont un bébé de quelques mois. De plus, Haïti ne parvient pas à relever des défis humanitaires. 4,1 millions d'habitants ne mangent pas à leur faim, ce qui représente un tiers de la population, sans compter que 2,1% des enfants souffrent de malnutrition sévère, d'après le rapport mondial Human Rights Watch de 2021.
À partir de février 2019, Haïti a été secoué par de violentes manifestations qui demandaient la démission du président Jovenel Moïse, accusé de corruption. La colère du peuple accroît la crise économique que connaît Haïti durant cette période et contraint la population à vivre dans la misère. Deux années plus tard, le 7 juillet 2021, le président haïtien est assassiné. Mais la descente en enfer du pays s'accentue avec de nouvelles catastrophes. Une semaine plus tard, le pays est frappé par un séisme meurtrier alors que les plaies laissées par celui de 2010 étaient toujours visibles. De plus, le choléra a fait son retour sur l'île. Sur ce terreau s'est propagée la violence des gangs armés. Ces derniers ont gagné en influence jusqu'à atteindre le contrôle d'environ 80% de la capitale, Port-au-Prince. La défense haïtienne, peu équipée, n'est pas parvenue à contrôler la stratégie de ces gangs qui ont pour cible principale les civils. Ces stratégies résultent de la terreur et de crimes contre l'humanité et sont financées par une économie informelle qui se compose de trafic de substances illégales et d'armes. Avec toutes ces informations, est-ce qu'on peut parler de conflit intra-étatique ? Évidemment, ce conflit en est la plus frappante illustration, puisqu'à l'intérieur, on y retrouve un État failli en incapacité d'assumer ses responsabilités face à des acteurs non conventionnels qui profitent de l'occasion pour développer leurs activités irrégulières.
Face à cette situation de crise, le gouvernement haïtien ne peut plus rester seul. Il demande alors de l'aide à une organisation supranationale, l'Organisation des Nations Unies. Ce n'est qu'un an après la demande que l'ONU donne son accord pour intervenir le 2 octobre dernier. Elle intervient pour plusieurs raisons. D'une part, Haïti est membre fondateur de l'ONU. Elle a participé à plusieurs projets, comme la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais elle a également pour objectif de développer le pays, avec leurs projets de fin zéro, d'égalité entre les sexes ou encore d'une éducation de qualité. Pour cela, le Conseil de sécurité valide l'envoi à Haïti d'une force militaire menée par le Kenya. Il dit vouloir défendre les populations afrodescendantes en aidant la police haïtienne. Alors on pourrait penser que le Kenya œuvre pour l'intérêt commun. Mais en réalité, l'intérêt national est prioritaire, puisque le Kenya accepte cette mission pour 100 millions de dollars promis par les États-Unis.
Cependant, la population haïtienne se divise entre l'espoir de voir la situation s'améliorer et le scepticisme, face à cette force kényane qui arrive en terre inconnue avec la barrière de la langue pour tenter d'apaiser un conflit dont elle ne connaît rien. Par ailleurs, le Conseil de l'ONU, pour reprendre le contrôle face aux gangs, a mis en place un régime de sanctions visant à faire cesser leur économie informelle, autrement dit leur trafic. À première vue, le conflit haïtien ne semble connaître aucune issue. Le peuple haïtien est plongé depuis plusieurs décennies dans une misère sans fin qui semble s'aggraver perpétuellement. L'intervention de l'ONU est toutefois notable et médiatise le conflit à l'échelle internationale. Alors, l'espoir d'un traité de paix est-il envisageable ? Notre réponse sera négative puisqu'en effet actuellement aucun signe de paix n'est envisagé entre les gangs et l'État haïtien. En réalité, comment pourrions-nous nous imaginer négocier un traité de paix avec des criminels ? La théorie d'Hélène Lalim, diplomate représentante spéciale de l'ONU pour Haïti, serait que seul un développement économique et social pourrait permettre à Haïti de sortir de cette crise qui, à première vue, semble interminable. Si vous voulez suivre de plus près ce conflit, nous vous conseillons quelques sites tels que Le Monde, Arte ou encore France Info.
Merci pour votre attention et n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes de ce podcast réalisé par les élèves de l'enseignement de spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques du lycée des Horizons de Chazelles-sur-Lyon.